Bonjour, bienvenue sur Radio Aria. Je suis Marie Bellou, infirmière sur le territoire. Je vous présente une toute nouvelle émission qui s'intitule « Santé à tous », parce qu'aujourd'hui, la santé, c'est l'affaire de tous. Cette émission sera dédiée en différents thèmes, la santé publique, les vaccinations, la souffrance psychique, l'addiction au tabac et des tas d'autres problématiques. Pour ce premier numéro, nous le consacrerons à la santé publique. Notre invité, Olivier Aromatario. Bonjour à toi, Olivier, et bienvenue.
Oui, bonjour Marie. Donc, je suis Olivier Aromatario, je suis ingénieur d'études à l'EHESP, l'École des hautes études de santé publique de Rennes, et chef de projet santé chez Filieris à Metz. Et donc, je m'occupe de développer justement des projets santé auprès de différents types de populations, que ce soit la population générale, ou des personnes âgées, ou des jeunes, etc.
Merci Olivier. Alors, santé à tous. Pourquoi parler de santé à tous ?
Déjà, quand on se présente, saluer, au départ, ça vient du mot latin salus, santé. Donc, dès qu'on se dit bonjour, qu'on se salue, on aborde une notion de santé. Voilà, on va aborder la notion de santé au passé, dans l'histoire, à la santé qui arrive à nos jours avec la définition de l'Organisation mondiale de la santé. Je laisserai Olivier en parler. Un état complet de bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie et d'infirmité. On essaiera également de parler de l'accès aux soins et de la géographie, parce que la santé semble aujourd'hui inégalement répartie sur le territoire. On pourra aussi parler d'économie, parce qu'on a un problème aujourd'hui de coût, de rentabilité de la santé, alors que c'est pourtant un bien public qui nous préoccupe tous. Et la santé, semble-t-il, pour finir, devient aussi un bien de consommation, au travers de tout ce qui est magazine, salle de sport, objets connectés, parapharmacie. On achète, on nous vend de la santé. Et le dernier point, c'est également l'écologie qui fait que la santé n'est pas quelque chose d'isolé, mais quelque chose qui est en rapport avec notre environnement, les phénomènes mondiaux autour de nous. Olivier, tu vas peut-être pouvoir nous expliquer cette histoire de définition de la santé qui paraît un petit peu idéale.
Oui Marie, donc quand on parle de santé, on parle effectivement de choses très différentes, hein, ça a évolué au cours de l'histoire. Pendant longtemps, la santé, ça a été ne pas être malade. Hein, tant qu'on n'avait pas de maladie, c'était qu'on était en bonne santé. Hein. Il y a même un chirurgien qui s'appelle Le Riche qui disait que la santé, c'est la vie dans le silence des organes. Donc c'était vraiment une définition complètement biomédicale de la santé, où tant qu'on ne sentait pas un organe qui criait à l'intérieur, alors c'était qu'on était en bonne santé. Et ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, donc effectivement, suite aux souffrances qu'il y avait eu pendant la guerre, il y avait vraiment besoin de trouver une définition de la santé qui puisse être positive, qui puisse être dynamique, et qui puisse donner envie aux gens, justement, d'être en bonne santé. Et c'est là que l'OMS a donné sa définition. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. Et cette histoire de complet bien-être, eh bien, on se rend compte qu'aujourd'hui, ben, ça nous est très utile d'avoir cette vision de la santé qui est à la fois physique, ben, bien sûr, il ne faut pas être malade, mentale, il faut être bien dans sa tête, mais également sociale, c'est-à-dire que les conditions de vie et les conditions sociales des individus vont également considérablement influencer leur état de santé.
On a quand même toujours une petite notion hygiéniste de santé qui est présente.
La notion hygiéniste de santé est présente et surtout, qui peut dire qu'il est dans un état de complet bien-être physique, mental et social ?
Ça paraît un peu idéal.
Hein, c'est un petit peu utopique de dire qu'on puisse être dans un tel état. Ça, c'est une des premières limites de cette définition. Et une autre limite, c'est aussi de dire, bah, si on prend des produits qui nous permettent d'être un petit peu déconnectés de la vie réelle, est-ce qu'une fois que les personnes ont pris ce type de produit-là, est-ce qu'ils ne peuvent pas se sentir en bon état physique, mental et social, alors qu'on ne peut pas dire qu'ils sont en bonne santé?
Alors ça, c'est une notion qu'on abordera dans une émission future où on parlera des dépendances. Mais je voulais revenir à ton état de complet bien-être. Je m'inquiète un peu de cette notion. Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté moralisateur à faire peser sur la personne le poids de sa santé mentale, son équilibre physique vis-à-vis de personnes qui sont dans une situation d'insécurité et qui font que le tabouret avec les trois pieds est toujours un peu bancal quand on n'a pas une situation sociale équilibrée ou harmonieuse?
C'est vrai que on sait aujourd'hui que les conditions sociales de vie influencent considérablement la santé. D'ailleurs, il y a des différences d'espérance de vie entre un ouvrier et un cadre supérieur qui sont de l'ordre de 7 ans. C'est-à-dire qu'en fonction de la position sociale, on n'a pas le même état de santé tout au long de la vie.
Voilà, tout à fait. On peut quand même rappeler qu'on a quand même fait des progrès énormes en espérance de vie. Dans les années 60, on était chez les femmes à 73%. Aujourd'hui, on est à 84.
73 ans.
73 ans. Et aujourd'hui, on est à 84. Chez les hommes, on était à 67 et on est passé à 77, 78. Donc, effectivement, on a un progrès grâce à l'hygiène, grâce à...
Énorme progrès, énorme. Mais avec encore des disparités sociales qui existent. Les inégalités sociales de santé existent toujours, sont toujours très présentes, que ça soit concernant le physique, hein, parce qu'en fonction de la catégorie socio-professionnelle à laquelle on appartient, eh bien, on va être touché sur différents types de maladies, voire même sur l'ensemble des maladies, plus que quelqu'un qui est dans une condition sociale supérieure.
Et est-ce que le fait, parce qu'on a aussi beaucoup de gens touchés par le chômage, qui ne rentrent pas dans une catégorie professionnelle, et qui font que, alors c'est peut-être pas la santé mentale qui est plus affectée, mais en tout cas l'état social est moins bon, ou moins reconnu, ces personnes-là rencontrent certainement plus de difficultés.
Alors,
D'accès aux soins.
Il faut faire attention de ne pas confondre la santé individuelle, c'est-à-dire que pour chaque individu, il y a des spécificités, d'accord ? Il n'y a personne qui est pareil pour l'un que pour l'autre. On est là en train de parler de chiffres généraux. D'ailleurs, hein, on dit, les personnes qui sont en situation financière difficile, eh bien, vont avoir un état de santé plus difficile. Ça, c'est général. Ça ne veut pas dire qu'une personne qui a des difficultés financières, eh bien, va être dans un plus mauvais état de santé qu'une autre personne à ce moment-là. C'est vraiment sur les chiffres généraux dont on est en train de parler. Donc, il faut faire attention de ne pas individualiser le discours, d'accord ? On est bien en train de parler, là, de façon générale, comment ça se passe dans la vraie vie.
Voilà. Et collective, oui.
Voilà.
Parce qu'on peut considérer que la santé, c'est quand même public, quelque chose qui appartient à tous.
Le fait que ça soit un bien public, ça dépend de quoi on parle, hein. Ça dépend... si on est en train de parler des modalités de financement de la prise en charge des soins, si on est en train de parler des modalités de financement de la prévention, si on est en train de parler de tout ça. Ça, qu'est-ce que c'est qui définit si c'est public ou c'est pas public ? Ça va être les lois et les modalités d'organisation des politiques de santé de l'État.
D'accord. Mais aujourd'hui, on constate quand même que d'une région à l'autre, selon si on est près d'un CHU ou si on est en pleine campagne, l'accès aux soins n'est pas le même pour tous.
Aujourd'hui, avec les restructurations hospitalières liées à la réduction des coûts obligatoires, puisqu'on n'arrivait plus à financer l'intégralité des coûts, eh bien, effectivement, il vaut mieux être pas très loin d'un établissement hospitalier plutôt que d'être en campagne et complètement isolé, âgé sans pouvoir sortir de chez soi. Ça, c'est plus difficile.
Aujourd'hui, on croise la santé dès qu'on sort dans la rue, dès qu'on ouvre un magazine, dès qu'on allume la télé, quand on l'a. Les gens se connectent à des montres qui sont des objets de surveillance de santé. Est-ce que c'est une santé préventive ou de consommation ?
Ben comme tu le disais, hein, la santé vue d'un point de vue purement individuel, et ça correspond aux objets dont tu es en train de parler, hein, c'est vraiment chaque individu est responsable de sa propre santé. Le fumeur est responsable du fait qu'il fume, etc., etc. Ça, c'est vraiment une vision de la santé qui est de plus en plus présente et qui n'est pas sans poser de difficultés dans les modalités de prise en charge et dans qui va financer quoi dans le domaine de la santé.
Alors, le fumeur est responsable de ce qu'il fume, oui et non. À une époque, on distribuait des cigarettes gratuitement à la sortie des boîtes de nuit. On offrait les cigarettes aux gens qui allaient à l'armée. Bon, aujourd'hui, on n'est pas tout à fait dans le même cas de figure. On s'est aperçu que le tabac coûtait très cher. Donc, on arrive à une politique beaucoup plus répressive sur la consommation de tabac. Les lobbies du tabac continuent quand même à s'enrichir.
Maintenant, après cette première partie fort intéressante, Olivier, qui est venu avec sa playlist, nous permet d'écouter Sting Russian. Of you.
Pour continuer dans l'évolution des définitions de la santé, hein, comment on fait pour pouvoir parler de santé ? Eh bien, on a ensuite la charte d'Ottawa en 1986 de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui nous a dit que la santé, c'était plutôt une qualité de vie. La santé, c'est quoi ? Ben, c'est plutôt la mesure dans laquelle un groupe ou un individu peut d'une part réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins, et d'autre part évoluer avec le milieu et s'adapter à celui-ci. Alors là, on est en train de parler d'autre chose. On n'est plus dans un état de complet bien-être physique, mental et social. On est en train de dire que l'individu doit pouvoir réaliser ses ambitions.
Dans un environnement.
Dans un environnement particulier. Et là, on se rend bien compte, comme on le disait, que, eh bien, en fonction de la catégorie socio-professionnelle, en fonction de comment on vit, en fonction de ses différentes, de son environnement.
De sa culture.
Exactement.
De son histoire.
Voilà.
On ne va pas avoir du tout le même.
La
même adaptation.
Voilà, il ne va pas y avoir du tout les mêmes activités à mener pour garder en bonne santé. Il ne va pas du tout y avoir la même représentation, ce qu'on pense de ce que c'est que la santé, etc. Ça va être complètement différent.
Donc là, on est dans la promotion de la santé.
Voilà.
Alors que le fameux tabouret à trois pattes, enfin avec le tabouret à trois pieds, avec le volet mental, physique et social, était vraiment une version un petit peu plus idéalisée de la santé.
Voilà, ce serait dire que la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, c'est un peu comme s'il y avait un point un peu inatteignable.
Inaccessible.
Inaccessible, exactement, qu'on pourrait réussir à essayer d'atteindre pour être dans cet état de complet, de bien-être, de complet bien-être. Voilà.
Et la promotion va permettre d'inciter
alors que
à
la
créer des liens.
Voilà, c'est ça. C'est plutôt, on va parler de santé comme étant une ressource pour pouvoir vivre, plutôt comme étant l'objectif de sa vie.
D'accord.
Le but de la vie dans la promotion de la santé, c'est pas d'être en bonne santé, c'est de pouvoir réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins. Et la santé, elle va servir à ça. Et
donc là, ça va en quelque sorte rendre la personne actrice.
Voilà, exactement. Là, on ne va pas pouvoir définir pour la personne qu'est-ce que ça veut dire que ses ambitions. On ne va pas pouvoir définir les ambitions de la personne. Il va bien falloir que ce soit l'individu qui va pouvoir porter une réflexion par rapport à sa santé et pouvoir mettre en œuvre des actions qui vont lui permettre de garder son état de santé.
D'accord. Est-ce que ça nous fait pas porter beaucoup de responsabilités sur le poids de l'individu.
Alors, justement, comme je le disais dans la définition, c'est pour évoluer avec son milieu et pouvoir s'adapter à celui-ci. Et quand on dit satisfaire ses besoins, les besoins, ils viennent également de son environnement. L'environnement, c'est quoi ? C'est à la fois l'environnement physique, où on habite, hein, c'est pas pareil si on habite dans le sud de la France, dans le nord de la France, dans l'est, dans l'ouest, etc., c'est différent. Mais c'est aussi son environnement social. C'est
familial,
aussi son environnement familial. C'est
scolaire.
Aussi scolaire, son environnement psychologique dans son entreprise. C'est tout ça qui va faire que l'individu, eh bien, il va devoir, dans ce cadre-là, pouvoir réaliser ses ambitions. Et donc, on se rend bien compte qu'on ne va pas agir que l'individu, contrairement à, comme tu le dis, la crainte que ça devienne une approche purement individuelle. Mais il va falloir également agir sur le collectif, parce que la vie sociale va avoir une influence sur la santé.
Ça pourrait être par un renforcement des ressources, en aidant la personne à activer plus ses ressources.
Alors,
ses centres d'intérêt ou ses ressources.
Juste, je termine sur qu'est-ce que c'est qu'on va, qu'est-ce que c'est que la santé va impliquer, d'accord ? Et après, on viendra sur comment on peut faire, puisque là, on revient d'un point de vue individuel. Hein, si tu parles de développer les ressources de l'individu, ça va être d'agir sur l'individu, de permettre à l'individu d'agir sur son environnement, etc.
Ou ça peut être aussi sur une collectivité au travers de pas spots publicitaires, mais de campagnes de prévention. On sait qu'elles ont quand même un impact sur des comportements.
Voilà, donc là, tu reviens d'un point de vue individuel. Hein. Qu'est-ce que ça va faire sur l'individu ?
Oui, quand même.
Voilà.
OK.
Donc, effectivement, la santé, c'est quelque chose qui est individuel. Comme je le disais, c'est quelque chose qui est aussi collectif. La vie sociale va influencer notre état de santé. Ça va être également influencé par l'environnement autour de l'individu. Comme je le disais, l'environnement géographique, social, psychologique, etc., etc. Mais ça va être également influencé par les services de santé, en fonction des modalités de prise en charge des services de santé. Est-ce que les services de santé sont proches, sont loin ? On en parlait tout à l'heure, pour pouvoir être soigné. Est-ce que les services de santé ne font que du soin ou font aussi de la prévention ? Essayent d'éviter que les personnes soient malades, ou bien on attend que les personnes soient malades pour pouvoir agir sur leur santé. Et le cinquième axe de cette charte d'Ottawa, c'est les politiques de santé autour des individus. Par exemple, le fait d'être remboursé pour pouvoir se soigner, ça influence considérablement la santé des populations. Ce n'est pas pareil, on n'aurait pas le même état de santé en France si les gens devaient payer leurs soins. Donc voilà, la promotion de la santé, ça reprend donc ces cinq axes, pour résumer, les actions individuelles, les actions collectives, les actions sur l'environnement, les actions sur les services de santé, d'accord, les services de santé qui sont autour de la personne, et les politiques de santé qui sont autour de la personne également. Voilà à quoi s'adresse la Charte d'Ottawa. Et là, on se rend compte que quand on parle de santé globale, eh bien, on y est vraiment dans la santé globale. On est dans la santé globale, dans la définition de 46, hein, c'est cet état de complet bien-être, etc., physique, mental et social. Et la Charte d'Ottawa permet de préciser que, attention, justement, c'est pas quelque chose à atteindre, la santé, mais c'est permettre à l'individu de faire des bons choix pour sa santé. Et si l'environnement n'est pas favorable... Et ça, par exemple, on l'a bien vu avec le tabac. Avant, on fumait dans les bistrots, on fumait à la maison, on fumait dans les voitures, on fumait, etc., etc. Depuis qu'il y a des lois qui ont modifié l'environnement, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui sont en meilleure santé aujourd'hui que ce qu'elles l'étaient avant.
Donc, la Charte d'Ottawa va permettre, enfin, la promotion de la santé va permettre de faire bouger cet état de santé des individus
l'objectif,
et du collectif.
Je répète, hein, l'objectif de la promotion de la santé, c'est bien redonner les moyens aux individus de pouvoir faire des choix par rapport à leur santé. Alors, il y a des campagnes nationales qui peuvent les informer. On sait qu'on peut manger, il faut manger 5 fruits et légumes par jour pour être en meilleure santé, faire une demi-heure de sport par jour, arrêter de fumer, etc., etc. Donc, si on ne le sait pas, on ne peut pas avoir un comportement adapté à la santé. Par contre, s'il suffisait de le savoir pour le faire... Il y a longtemps qu'on le saurait aussi. Donc, il ne suffit pas d'avoir des informations dans le domaine de la santé pour pouvoir bien faire les choses. Et voire même, on sait que diffuser de l'information comme ça, ça va plutôt favoriser ceux qui font déjà tout bien. Et ceux qui ont des comportements qui sont pas bien adaptés à la santé chez eux, ça ne va rien changer.
Mais...
Donc, ceux qui avaient déjà une bonne santé avant vont continuer à avoir une bonne santé après. Et ceux, voire même une meilleure santé, parce qu'eux, ils vont réussir à encore s'adapter pour avoir une meilleure santé. Et ceux qui n'ont pas une bonne santé, ben eux, ça va au mieux rien changer chez eux, d'accord ? Et à ce moment-là, on va augmenter les inégalités de santé entre ceux qui sont en meilleure santé, qui vont être encore en meilleure santé, et les autres qui, pour eux, ça ne va pas changer grand-chose.
Oui, parce qu'au niveau de l'alimentation, tu en parlais à l'instant, il y a une petite hypocrisie quand même quand on voit que c'est moins cher de boire un verre de vin que, voilà, qu'un Perrier dans un bistrot, qu'un paquet de 8 pitchs, enfin, pour pas citer, on va pas citer de marque, de 8 produits
gâteaux,
sera moins cher qu'un pain bio ou un pain naturel.
Donc là, voilà, tu as donc très bien compris ce que je voulais dire, c'est exactement ça. On ne peut pas dire à des gens manger 5 fruits et légumes par jour, s'ils gagnent 450 euros par mois, il est très difficile de manger 5 fruits et légumes par jour. Donc, on doit permettre aux individus d'agir sur l'environnement des individus pour qu'ils puissent devenir favorables, pour que tout le monde puisse réussir à manger 5 fruits et légumes par jour, si on veut respecter les préceptes de la promotion de la santé.
À nouveau, petite pause musicale. Merci Olivier pour ton choix, Peter Gabriel, Jeux sans frontières. Game without frontiers.
Très bien, Olivier. Tu nous expliquais donc par rapport un petit peu à la, à la Charte d'Ottawa et aux ressources et aux politiques de santé. Enfin, on abordait le problème des politiques de santé. Et moi, je pensais à cette partie de la prévention qui peut passer par l'éducation.
Voilà, ben on en parlait. Hein. Faire de l'éducation pour la santé, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est bien permettre aux personnes de modifier leur comportement, d'accord, pour pouvoir maintenir ou améliorer leur état de santé. Donc,
Alors, est-ce qu'en éducation à la santé, parce qu'on a quand même des publics très différents, on a parlé de la géographie, est-ce qu'on part des savoirs des gens, parce qu'on n'a pas les mêmes habitudes de vie, alimentaires, dans tous les domaines, est-ce qu'on part des savoirs des gens ou est-ce qu'on leur ramène, nous, un savoir en tant que professionnel de santé ?
Alors, quand on dit le mot éducation, déjà, il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on dit éducation et on ne parle que d'information ? Et c'est souvent le cas dans le domaine de la santé. On va dire éducation à la santé, mais on va dire aux gens, il faut faire comme ça, il faut pas faire ça, il vaut mieux faire comme ça, il vaut mieux faire ça. Ça, c'est pas de l'éducation, on est bien d'accord, c'est de l'information des individus. Et comme je le disais,
ça marche pas.
S'il suffisait de savoir que c'est pas bien de fumer pour qu'il n'y ait plus personne qui fume, il y a longtemps qu'on le saurait.
Oui, les yakas et les... Non, ça marche pas.
Voilà, donc, qu'est-ce que ça veut dire que faire de l'éducation ? Eh bien, c'est permettre à l'individu de trouver... Comment, lui, il va pouvoir organiser pour, à la fois, comme je le disais tout à l'heure, améliorer son environnement pour qu'il devienne plus favorable à la santé ? Comment on va pouvoir agir, comment on va lui permettre d'agir sur son comportement individuel, sur ce qu'il pense des choses, etc. Et comment on va lui permettre d'agir en groupe, d'accord ? Par exemple, toi, quand tu vas intervenir dans une classe... Peut-être nous raconter un petit peu comment ça se passe. Tu vas intervenir de façon collective avec des jeunes et c'est leur réflexion collective qui va pas être la même que leur réflexion individuelle si tu n'avais pas fait ces séances pour leur permettre d'évoluer dans leur représentation, c'est-à-dire de ce qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir faire. Et ça, ça va les faire évoluer sur qu'est-ce qu'ils vont dire qu'ils vont faire. D'accord ?
Voilà.
Parce que c'est pas pareil. Quand on dit ce qu'on va faire, c'est qu'une étape pour réussir à le faire. Parce que moi, je dis plein de trucs que je vais faire et je ne les fais jamais en vrai. Hein, voire même, je fais le contraire le lendemain. Alors les jeunes, ça ne doit pas être facile pour eux non plus quand on intervient comme ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que faire de l'éducation de façon individuelle ? Qu'est-ce que ça veut dire de faire de l'éducation de façon collective ? Pour permettre aux individus, déjà de se rendre compte de comment l'environnement agit sur eux. Et par exemple, les jeunes, c'est très intéressant de parler de ça avec eux. Quand on commence à les faire réfléchir sur... Pourquoi c'est bien de mettre tel type de basket, par exemple ? Eh bien, on se rend compte que, ils ont la même réflexion de pourquoi c'est bien de fumer du cannabis.
Oui.
Ce sont exactement les mêmes démarches psychologiques qui sont dedans. Et si on leur demande, pourquoi vous avez telle marque de basket, là, tout le groupe, là, vous avez tous un petit peu les mêmes marques, tout ça, comment que ça se fait ? Eh bien, quand on leur demande ça, de développer pourquoi ces baskets-là, elles sont mieux que les autres, eh bien, ils se rendent compte tout seuls. En fait, ils ne font que répéter le marketing et ils ne font que répéter ce que la publicité leur a appris. D'accord ? Eh bien, pour le cannabis, c'est exactement la même chose. Pour le tabac, c'est exactement la même chose. Et pour l'alcool, aujourd'hui, c'est encore, je dirais, plus flagrant. D'accord ? Puisque les alcooliers ont réussi à faire évoluer les consommations des jeunes vers des consommations vraiment ce qu'on appelle le binge drinking, c'est-à-dire des consommations importantes en début de soirée, contrairement à notre temps à nous. Où on avait des consommations tout au long de la soirée et on faisait attention de ne pas tomber par terre, alors qu'aujourd'hui, le but de la manœuvre, ce serait presque de, justement, tomber par terre. Ça, c'est les alcooliers qui ont réussi. On pourra faire une émission là-dessus, si tu veux.
Oui.
Voilà, parce que là, on est vraiment en train de parler de, en termes, quand on parle d'éducation pour la santé, qu'est-ce que ça veut dire ? Donner de l'information ?
Partir des savoirs, peut-être, des connaissances, voilà. Et leur apporter quand même une certaine information.
Exactement, Marie. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est non pas d'aller apporter des choses à l'individu, mais que l'individu réussisse à construire son propre schéma, ses propres routes pour réussir à modifier son comportement. Et effectivement, une des premières choses à faire, c'est déjà l'écouter plutôt que de lui dire des choses.
Voilà, ouais. Je pense aussi. Si on arrive à faire ça en éducation à la santé, c'est gagné.
Tout n'est pas gagné parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, l'environnement va avoir une influence considérable sur le comportement de l'individu. C'est pas complètement gagné, mais si on ne fait pas ça, c'est sûr que ça va être perdu pour ceux qui en ont le plus besoin. Mais ça marchera quand même pour ceux qui en ont le moins besoin.
Notre dernier choix musical pour le bien-être de tous, Jane Birkin dans Arabesque.
Thank you. sans aucun prétexte, je ne veux avoir des réflexes malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Mon cœur de silence vite prend feu. Ton cœur de pyrex résiste mieux. Je suis bien perplexe, je ne peux me résoudre aux adieux. Je sais bien qu'un ex-amour n'a pas de chance, ou si peu. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Tu as mis à l'index nos nuits blanches, nos matins gris-bleus. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi surexposer mes yeux. Derrière un Kleenex, je serai mieux. Comment te dire adieu? Sous aucun prétexte, je ne veux avoir des réflexes malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Merci François pour le son. Merci à Michel pour le régie. Merci Marc pour sa poursuite qui poursuivait. Merci Geoffrey pour le régie lumière. Et aussi Daniel, Karim, Yassour, Dominique et tout à l'audio. Eric Barthes qui nous a invités ici, son corps ne serait pas là. Christopher Miles, Georges Lavedon, merci beaucoup. Et puis merci Isabelle, Gérald, Ricardo. Merci Jean-Marc Ganassia, Philippe Muller. Et puis merci Laurent Savry, mon agent. Merci Michael pour le presse. Merci Laura Adler qui a eu l'idée. Et merci de nouveau Jacques Rouvelélis pour la lumière. Merci Philippe Moumen. Merci tous mes musiciens qui sont ici ce soir. Et je voudrais remercier quelqu'un. Ouais. Ouais. Merci Aïe. Et je voudrais remercier un ange. Parce que je pense que j'ai un ange à moi. Et elle s'appelle Gabrielle. Et c'est grâce à elle si tout cela a pu se passer. Ange Gabrielle, merci. Et vous tous, merci à vous. Merci. 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 C'est si joli de vous voir. Merci. Merci encore. Sous aucun prétexte, je ne veux avoir des réflexes malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Mon cœur de pyrex vite prend feu. Ton cœur de pyrex résiste mieux. Je suis bien perplexe, je ne peux me résoudre aux adieux.
Alors reprenons, en matière d'éducation à la santé, comme tu le disais Olivier, on peut aussi toujours innover. Au niveau de l'alimentation, voilà, moi j'ai des petites expériences, c'est vrai que en partant avec des jeunes et en leur faisant ramener les emballages de ce qu'ils mangent, en les faisant réfléchir aussi, on a un groupe de jeunes avec, à qui on avait posé la question avec une diététicienne de comment mangeaient leurs grands-parents. Ils avaient interviewé leurs grands-parents et s'étaient aperçus que les grands-parents ne mangeaient pas du tout ce qu'ils mangent aujourd'hui les adolescents. Et les jeunes se sont un petit peu questionnés par rapport à... Ils ont des grands-parents qui sont encore en vie et par rapport à ce qu'ils mangent eux aujourd'hui et qui semblent meilleurs certainement sur un plan hygiène, on va dire. On a peut-être moins d'intoxication alimentaire, des produits emballés, même suremballés. Mais en tout cas, on a plus de colorants, plus d'exhausteurs de goût, plus d'additifs. Donc voilà, les jeunes se sont beaucoup questionnés par rapport à ça en interviewant leurs grands-parents. Ça, c'était très, très intéressant. Ensuite, avec d'autres enfants, on fabrique actuellement un arbre alimentaire en partant de ce qu'ils mangent, à savoir comment ils le mangent, combien de fois par jour, combien de fois dans la semaine, voilà. Et on essaye un petit peu de voir... les quantités, la qualité, le goût, ce qu'ils aiment aussi, en partant un petit peu de leur plaisir à eux par rapport à l'alimentation. Parce qu'il faut surtout rester dans une notion de plaisir avec la santé. Si on pouvait associer un petit peu le mot santé, le problème c'est que souvent on l'associe à quelque chose...
À de la frustration, l'associe à « bah non, tout ce que j'aime bien ça fait grossir », etc.
Ou alors
etc.
Je peux pas boire, je peux pas fumer, voilà. Voilà. Alors qu'en fait, il faudrait vraiment qu'on arrive à ce que l'hygiène de vie, enfin, que le plaisir soit en partie intégré dans la notion de santé, là, ça nous permettrait d'avancer beaucoup mieux dans la prévention.
Et ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que ça doit venir de l'individu et non pas d'un professionnel à l'extérieur. Le professionnel de l'extérieur, il est là pour permettre à l'individu de pouvoir modifier son comportement. Il n'est pas là pour lui dire qu'est-ce que c'est que le bon comportement, bien que... Comme je le disais tout à l'heure, il est très important déjà de connaître quel est le bon comportement, parce que sinon, on n'a pas envie de changer son comportement. Dans les années 50, quand Philip Morris disait à tout le monde que fumer, ça aidait à respirer, eh bien tout le monde avait envie de fumer. D'ailleurs, ça a très bien marché pour les femmes. Dire aux femmes que d'être émancipées, c'était aussi passer par la cigarette, ça a considérablement bien marché. Et aujourd'hui encore, les jeunes filles, elles fument un petit peu plus que les jeunes garçons, eh bien ça reste là-dessus, parce qu'on devient une grande fille grâce à la cigarette, grâce à tout ça. Et tout ça, ça a été l'industrie du tabac qui l'a mis dans la tête des femmes dans les années 50. Donc il va falloir effectivement permettre aux individus de trouver chez lui comment améliorer son environnement et comment modifier son comportement. Comme exemple, on a à Longwy le programme « Je t'aime mon cœur » qui fonctionne vraiment sur ces modalités-là, avec une infirmière coordinatrice qui reçoit des gens qui ne sont pas malades, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont, comme on dit en médecine, des facteurs de risque, voilà, qui sont un petit peu trop sédentaires, qui ont une alimentation un peu trop riche.
Alors sédentaire, on va préciser.
Sédentaire, c'est quand on ne fait pas assez d'activité physique. Ouais. Quand on reste assis sur sa chaise pendant 6 heures, par exemple, on est sédentaire.
Après, une petite sieste ne fait mal à personne. Et on a aussi besoin de repos et de temps de farniente.
Exactement. Voilà. Donc, le programme « Je t'aime mon cœur », c'est une infirmière qui va recevoir des personnes qui ne sont pas malades, mais qui ont des facteurs de risque, et qui vont réfléchir avec eux, qu'est-ce qu'ils pensent qui serait bien pour eux de pouvoir faire, etc. Et là, il y a une cellule éducative entièrement gratuite à leur disposition, donc diététicienne, coach de sport, tabacologue et psychologue, qui va pour le stress.
Qui permettent un suivi, un accompagnement.
Qui vont permettre à l'individu de se dire, prenons l'exemple d'une femme, par exemple, qui veut arrêter de fumer. D'accord ? La femme, elle a envie d'arrêter de fumer. Et quand on va discuter avec elle, eh bien, on va se rendre compte qu'elle a envie d'arrêter de fumer, mais elle n'arrête pas parce qu'elle a peur de prendre du poids. D'accord ? Et on est au mois d'avril, et c'est pas le moment, Donc, comment on va faire pour lui permettre d'arrêter ? Peut-être que la première des choses à faire, c'est pas d'arrêter de fumer, mais c'est de commencer à modifier son régime alimentaire, d'une part, et à commencer à augmenter son activité physique. D'accord. Donc là, ça va être intéressant pour elle peut-être de pas démarrer par le sevrage tabagique, mais de démarrer par aller voir la diététicienne et le coach de sport. Et après, on verra, en discutant avec les professionnels, les professionnels peuvent aussi en discuter entre eux, elle va pouvoir décider, ça y est, maintenant je suis prête, je vais pouvoir essayer d'arrêter de fumer. Donc ça, C'est la démarche qui est à l'intérieur du Je t'aime mon cœur. Ce programme est disponible, mais je pense que tu vas faire émission spécifique.
Oui, on invitera donc Madame Gabrielli, si elle est d'accord, à venir parler de ce programme.
Voilà.
Et donc, les différents intervenants.
Voilà, pour les gens qui nous écoutent, ils peuvent regarder sur le site www.jetaimemoncoeur. C'est tout attaché ensemble. Il n'y a pas d'espace. www.jetaimemoncoeur.fr et ils auront toutes les informations sur le site internet, un numéro de téléphone à appeler.
Et ça, c'est sur le secteur de l'ONWI. Alors, ça existe sur pas mal de secteurs et je pense que c'est une politique de santé qui a été décidée par rapport au...
Régional, c'est une politique régional. De santé régionale.
Mmh.
Voilà, donc
d'accord.
Ici, dans le coin, c'est l'ONWI et Briey les plus proches.
Donc, en matière de prévention, ça, c'est un exemple tout à fait concret de ce qui se passe dans la région.
Voilà, exactement. C'est une excellente ressource locale pour pouvoir justement agir sur son état de santé sans que la maladie apparaisse déjà. Parce qu'en principe, en France, il faut être malade pour pouvoir être remboursé.
Voilà. Mais la santé, c'est aussi... Il y a des tas de gens qui travaillent leur santé sans le savoir, qui ont des activités, qui jouent aux échecs, qui font partie de clubs, qui... Quand on parlait tout à l'heure du volant social de la santé, voilà, je crois qu'il ne faut pas non plus qu'on reste trop dans la notion maladie, addiction. C'est sûr que quand on a des facteurs de risque, c'est mieux de les de lutter contre. Mais en même temps, on peut aussi essayer de préserver ce qu'on est, ce qu'on a, au travers...
Exactement.
Faire avancer la notion de santé au travers du plaisir, au travers de la convivialité, tout simplement.
C'est très important ce que tu dis, hein. Jouer aux échecs et avoir des relations sociales, c'est aussi très bon pour la santé.
Voilà. Donc je pense que ça, c'est un plan plus culturel, plus personnel ou collectif.
Hein. Radio Aria serait bon pour la santé ?
Absolument, je pense. En tout cas, il y a une émission de jazz que je conseille à tous pour la santé, qu'on va peut-être se quitter sur ce dernier message. Hein. Gardons la santé.
Hein. Eh bien Marie, je te remercie et à une prochaine fois.
Entendu Olivier. À bientôt. Merci à tous les auditeurs pour cette attention. Nous avons été ravis d'être avec vous et nous nous retrouverons bientôt dans une prochaine émission concernant la santé. Et bonne santé à tous.